This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec des orpailleurs à Agadez et en Israël pour parler cinéma. C'est le menu d'ailleurs dans le monde avec Olivier Poujade. La revue de presse des correspondants d'Inter passe cette semaine par Pékin et Moscou. Dominique André et Claude Bruyot. Cinéma, on foncera à Cannes retrouver l'équipe de rêve des cinéphiles d'Inter et notamment Eva Bétan. 18h55, Anthony Bélanger pour un édito sur le Brésil. L'armée est déployée dans les rues. Mais tout de suite, l'OTAN.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
L'OTAN réunit aujourd'hui à Bruxelles, non pas en sommet, mais en réunion spéciale, voire en réunion simple. La question de la lutte contre le terrorisme a évidemment été abordée, ainsi que l'augmentation des budgets de défense des États membres. Ce dernier point se fait sous la pression américaine, qui estime que le fardeau pèse trop lourd sur les épaules de ses contribuables et que l'Europe doit prendre toute sa part dans le financement de sa défense. Bonsoir Hubert Védrine.
Bonsoir.
Ancien ministre des Affaires étrangères, vous dirigez HV Conseil. Parmi vos publication récente Sauver l'Europe chez Liana Levy, Le Monde au défi chez Fayard, qui faisait suite à La France au défi. C'est une réunion importante, Bruxelles, aujourd'hui.
Elle n'est importante que parce que c'est la première occasion de contact entre Donald Trump, qui est extrêmement déconcertant, pour rester poli, pour les autres partenaires. C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas un vrai sommet, il n'y a pas de décision majeure. Quand Trump insiste sur le fait que les Américains en ont marre de payer trop, il paye 70% des dépenses de l'OTAN. C'est pas tout à fait nouveau. C'est pas là où il est en rupture le plus.
C'est sur quoi?
C'est quand tout le monde le disait avant, même Obama, il faut que les Européens payent plus. Là où il est le plus en rupture, c'est quand il émettait des doutes sur le fondement même de l'alliance souhaitée par les Européens après la guerre, c'est-à-dire l'article 5. Il fait obligation aux alliés de se défendre quand ils sont attaqués. Il a donné l'impression d'en douter. L'un de ses conseillers avait dit c'est obsolète. Ça a fichu une trouille terrible dans toute l'Europe. Les Européens qui passent leur vie à rater les occasions ont raté l'occasion de dire, si vous n'êtes pas content de l'OTAN, nous allons assumer notre propre défense. Mais ils en sont évidemment tout à fait incapables. Pour tant de raisons, donc ils tremblent un peu. Ils sont maintenant rassurés parce qu'il y a tout un système de généraux relativement sérieux. Sur l'Iran, ils sont pas sérieux, mais sur l'affaire de l'OTAN, ils sont sérieux. Et donc, je crois que c'est la rencontre du soulagement par rapport à Trump. Après, il y a la question du terrorisme qui est plus compliquée.
Pour quelle raison?
Parce que la machine de l'OTAN, en fait, depuis la fin de l'URSS, elle passe son temps à chercher des nouvelles missions. Et là, au début, c'était très embêtant. Depuis que Poutine est plus dur, voire parfois provocateur, ils sont rassurés parce qu'ils retrouvent un rôle à travers ça, notamment à la demande des Polonais et des Baltes. Mais ça va au-delà, et certains disent qu'il faudrait que l'OTAN joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme. Ça se discute parce que l'apport technique et militaire n'est pas du tout évident, et les inconvénients politiques sont géants par rapport au Moyen-Orient. Mais il n'est pas exclu que les Européens, peut-être la France aussi, j'en sais rien, j'ai pas tous les éléments d'appréciation, se disent après tout, si c'est une façon de resserrer les liens avec ce Trump qui est imprévisible et qui est potentiellement dangereux, on pourrait accepter formellement, verbalement, de dire que l'OTAN a un rôle à jouer. Bon, on verra.
Dangereux,
on verra.
Trump.
Il peut l'être. Enfin, il pourrait l'être si le système n'arrivait pas à l'encadrer. Moi, je pense plutôt que le système va l'encadrer. Je pense pas que le système va le transformer. Encore moins le professionnaliser. Ça, je ne crois pas. En plus, je pense que Trump est assez attaché à ce qu'il est. Quand il disait avant « je serai imprévisible », je pense que c'est la déclaration la plus vraie qu'il ait faite de toute la campagne. Et je ne crois pas qu'il ait envie, en fait, de se modifier. Alors, on pourrait dire, après tout, tant pis pour les Américains, puisqu'ils l'ont élu. Il y a des cas où ça a des conséquences absurdes, même pour eux. Ce qui serait gênant, c'est qu'ils prennent des décisions vraiment dangereuses, notamment en matière militaire, et que le système suive. Bon. J'y crois pas vraiment, en fait. Mais c'est pour ça que on pourrait dire qu'il est peut-être potentiellement dangereux.
Est-ce que...
C'est pas le cas jusqu'à maintenant. Par exemple, sa frappe en Syrie, après l'usage de l'arme chimique, était tout à fait légitime. Obama aurait dû le faire, d'ailleurs, en réalité.
Hubert Védrine, est-ce que l'invitation pressante donc faite par les États-Unis d'Obama comme de Trump, vous le rappeliez, à dépenser plus, à augmenter les budgets de défense, et je reviens à ce que vous disiez, ne pourrait pas être, en tout cas pour l'Europe, la première amorce d'une Europe de la défense si tout le monde se met à dépenser plus? Est-ce qu'on ne prend pas un peu plus en charge son destin?
À condition de lier les deux, oui. simplement l'Europe de la défense, c'était un slogan. Hein. Mmh. Sauf quand on parle de choses sérieuses, comme faisait Le Drian, disons, on parle de coopération industrielle, technologique, dans le meilleur des cas, peut-être une force européenne projetable à l'extérieur dans des opérations de maintien de la paix, pour que, par exemple, la France ne soit pas seule au Mali, quand le Conseil de sécurité le décide. Ça, c'est des objectifs sérieux. L'idée que les Européens se défendent par eux-mêmes, c'est évidemment hors de portée. Pour longtemps, je vous ai cité le chiffre de 70%. Alors évidemment, la pression, qui est là depuis toujours, pourrait conduire à ce que les Européens, précisément parce qu'ils ont eu peur, et même s'ils sont soulagés, ils pourraient dire, bah, après tout, bon, d'accord, on va augmenter. D'ailleurs, ils ont accepté dans un sommet précédent de monter à 2% le niveau de leurs dépenses de défense. Ça pourrait aller au-delà en ayant des forces combattantes, en s'organisant. Est-ce qu'il faudrait lier, que vous venez de le faire dans votre question, en disant, on veut bien faire plus, à condition de jouer un rôle plus grand. Et là, on retombe dans un débat qui est aussi vieux que l'Alliance, même à l'époque du général de Gaulle. Quand certains Européens disaient « on veut bien faire plus partage du fardeau », d'accord. Partage de la responsabilité, alors le Pentagone disait « mais non, parce que ça va être le chaos ». Donc c'est pas totalement nouveau, mais il n'empêche que les Européens auraient pu, depuis l'élection, pourraient encore, pourront peut-être demain, si quelque chose s'enclenche de nouveau entre la France de Macron et l'Allemagne de X ou Y, sans doute Merkel, c'est pas exclu. Il faut lier les deux. Mmh. C'est pas du tout le point de vue américain. Ils veulent simplement que les autres payent plus. Ils veulent pas qu'il y ait une sorte de partenaire européen qui commence à constituer une sorte de pôle européen de l'Alliance. Mmh. C'est pas leur souhait. Mais après tout, on pourrait le vouloir quand même.
Quelle attitude, Hubert Védrine, quelle diplomatie avec la Turquie, considérant ce qu'elle est en train de devenir?
Alors là,
il y a eu une rencontre Macron-Erdogan tout à l'heure. C'est un pays.
Oui, c'est normal, ça. Oui,
oui, voilà, c'est un pays tout de même très important, crucial, quand on pense qu'il est la frontière extérieure de l'Union européenne dans la gestion de la crise des réfugiés.
L'OTAN.
Oui,
et
voilà, qui est membre de l'OTAN. Et c'est un pays qui est en train de s'éloigner, on peut le dire très simplement, de la démocratie. Comment on fait pour travailler avec la Turquie?
Là, je parle à titre absolument personnel. Je crois que l'intérêt des Européens, ce serait de, disons, de clarifier la situation. Être capable de dire un jour, après tout, on s'est trompé quand on pensait que la Turquie avait vocation à entrer dans l'Union. Ce que demandaient les démocrates en Turquie, les milieux économiques, les milieux modernistes, ce que demandait Istanbul contre le reste. Bon, ça fait des années qu'on tourne en rond. Pour sortir par l'euro, il faudrait dire on s'est trompé. La Turquie est un pays stratégique très considérable. On veut garder des relations avec lui, mais on n'y arrivera pas sur la base de l'adhésion. Et d'ailleurs, en réalité, on arriverait, même s'il y avait un traité d'adhésion, ce qui n'est pas le cas, on n'arriverait pas à le faire ratifier. Parce que dans les 27 pays, on aura toujours 10 qui voteront non, notamment ceux qui ont vécu sous le joug de l'Empire ottoman autrefois. Mais on n'arrive pas à le dire parce qu'on a peur des conséquences. On a peur de les rejeter sous prétexte qu'ils sont musulmans, donc ça alimenterait le grief islamiste. Bon, en fait, c'est des espèces de logique à la Shadok, hein, tout ça. De toute façon, pour clarifier, il faudrait qu'on soit tellement mieux organisé en Europe dans le cadre d'un Schengen complètement rénové, qu'on soit capable de dire aux Turcs qu'on veut clarifier, on veut garder un partenariat stratégique. Au début, ils diraient non, on veut plus de vous. Après, ils reviendraient. Mais qu'entre-temps, on soit capable de faire face à l'arrivée éventuelle de nouveaux demandeurs d'asile et de nouveaux migrants, encore que ce soit deux choses totalement différentes. Donc, on pourrait y arriver si on faisait cette... Il y a des domaines où l'Europe devrait faire beaucoup moins et arrêter de se mêler de ce qu'il a. Regarde pas, c'est tout ce que Juncker appelle la réglementation à outrance, mais il y a des domaines où elle doit faire plus. Et le plus, c'est un grand Schengen de ce type. Mmh. On y arrivera, d'ailleurs, plus ou moins laborieusement. Tant qu'on l'a pas, on est un peu embarrassé par rapport à la Turquie, donc en fait, on gère l'inconvénient sans avoir d'issue. Quant aux Américains, je crois pas qu'ils aient envie de... D'abord, je pense pas que M. Trump soit aussi choqué que nous par l'évolution de la Turquie, pourtant d'ici raison. Et par ailleurs, je ne pense pas que les Américains, le système américain profond, vous voyez, qui est toujours là, je crois pas qu'ils aient envie que la Turquie sorte et développe une alliance bilatérale avec la Russie.
On n'a rien à dire.
Donc on est un peu contraint, quoi.
On n'a rien à dire, Hubert Védrine, comme Européen, sur la dérive dictatoriale de ce pouvoir.
On peut dire tout ce qu'on veut, mais
oui, ça n'a aucun effet. Mais est-ce qu'on le dit même?
On peut dire.
On dit qu'on est inquiet, on dit qu'il faut faire attention, on appelle à ceci, à cela, mais bon.
On peut dire quand on fait des politiques étrangères à usage interne, qui est un risque, ou une probabilité pour les démocraties que même Tocqueville, vrai génie, il y a deux siècles, avait noté. Le risque pour les démocraties, c'est de mener leur politique extérieure sur la base de considérations intérieures. Donc, on le dit si on pense qu'on est fait comme ça, c'est nos principes, il faut que quelqu'un le dise, que si personne ne le dit, c'est encore pire, mais il ne faut pas en attendre un effet particulier. Vous voyez bien que Erdogan, ça n'a pas d'importance pour lui. Il voit les rapports de force, il a ses visions à lui, un pouvoir turc de plus en plus important. Il voulait refaire une sorte d'influence ottomane, ça n'a pas marché parce que même les frères musulmans égyptiens lui ont dit qu'ils ne voulaient pas d'eux, des Turcs. Après, il a son obsession anti-kurde, c'est-à-dire que l'autonomie, bien gérée d'ailleurs, par les Kurdes au nord de l'Irak, ne soit pas contagieuse chez les Kurdes de Syrie, et encore pire pour lui, chez les Kurdes de Turquie. Donc il a ses visions. Donc il n'y a aucune raison de ne pas dire ce qu'on pense. Mais encore une fois, il ne faut pas mélanger les deux. On dit ce qu'on pense, on rappelle des principes, etc., etc., mais ce n'est pas forcément ça non plus une politique étrangère. Ça ne consiste pas simplement à exprimer des positions et mener ensuite des guerres de positions sans résultat. Donc, est-ce qu'on a... Ça me ramène à mon point d'avant. Donc, je récuse pas ça. Hein. Je pense qu'il faut le faire compte tenu de ce que nous sommes. Mais après, il faut des leviers. Et on peut trouver un levier que si on est capable de gérer les conséquences éventuelles pour nous en Europe aujourd'hui de la clarification turque.
Le levier, c'est donc un Schengen élargi, c'est ça ce que...
Non, pas forcément élargi.
Alors, où passe la frontière de ce Schengen-là?
Schengen, c'est évidemment un des acquis formidables de la construction européenne des 30 dernières années. Mais il faudrait d'abord vérifier que chaque pays membre est prêt à continuer et capable d'appliquer les engagements. Ensuite, il faut une combinaison de quelque chose qui est vraiment communautaire, la gestion de la frontière extérieure, les gardes-côtes, les gardes-frontières, une vraie combinaison avec l'ensemble des polices nationales, il y en a plusieurs par pays, il faut que ce soit instantané, il faut que ce soit vraiment moderne, après une distinction absolue entre les demandeurs d'asile, les gens qui demandent un refuge, ils sont en danger. Et ça, on ne peut pas dire non, on ne peut pas les plafonner, on ne peut pas fixer de quotas, on ne sait pas quels seront les drames atroces dans 10 ans qui mettront toutes ces pauvres familles sur les routes. Donc il faut distinguer complètement de la gestion des flux migratoires. Que à la fois l'extrême droite, disons, et l'extrême gauche ou la gauche caritative mélangent pour des raisons complètement différentes. Il faut co-gérer avec les pays de départ et de transit pour dire aux opinions européennes, vous pensiez que c'était une passoire, c'est pas une passoire, c'est géré. Et donc face à la demande d'asile, l'Europe ne peut pas renoncer à ce qu'elle est depuis toujours en disant non, donc il faut le gérer. Si on arrivait, alors tout ça, je parle comme s'il n'y avait rien, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les 2 ou 3 dernières années sous la pression de l'événement et de drames. Les ministres de l'Intérieur de l'ensemble du pays de Schengen ont fait un travail magnifique. Et chez nous, par exemple, Bernard Cazeneuve a fait beaucoup de choses. Bon. Mais on n'est pas encore au point où on pourrait démontrer aux opinions publiques que ça, au moins, c'est géré. Et qu'on ne leur demande pas de vivre dans une maison sans porte ni fenêtre. Il faut ça pour pouvoir être plus généreux. Bon, si on avait tout ça qui pourrait se faire, à mon avis, en un an, hein, compte tenu des avancées... Si on laisse pas la Grèce et l'Italie seules en première ligne, donc faut changer la fameuse convention de Dublin, enfin, tout ça est très lié, en fait. Ça serait fait, ça serait proclamé, ça serait montré, on serait déjà un peu plus à l'aise pour gérer la relation, une relation, disons, assainie avec la Turquie.
Il nous reste juste une minute trente, Hubert Védrine, et je suis désolé, ma dernière question va être panoramique. Vous attendez quoi de la politique étrangère et européenne d'Emmanuel Macron?
Ben si on fait attentivement à ce qu'il a dit, l'élément clé pour lui, c'est la relance dans des conditions nouvelles de la relation avec l'Allemagne. Et il en espère une approche nouvelle de la question européenne. Il l'a beaucoup dit, c'est fondamental chez lui, me semble-t-il, mais ça se joue pas tout de suite. Il a vu déjà plusieurs fois Madame Merkel. Il a beaucoup d'atouts parce que beaucoup de nos partenaires craignaient vraiment l'élection de
Marine Le Pen.
De Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'elle pourrait être élue? On peut en débattre, bon, en termes de sciences politiques. Mais en tout cas, beaucoup de gens l'ont cru. Ils sont immensément soulagés. Donc, ils sont prêts à faire des gestes qu'ils n'auraient pas fait pour d'autres. Mais c'est quoi les gestes? On verra. Donc, ça me paraît être le point central qui se discutera à l'automne, qui peut se préparer avant, mais qui se discutera après les élections d'Allemagne qui ont lieu fin septembre. Le système allemand conduit nécessairement à des coalitions. Donc, ils vont en discuter. Puis, c'est sérieux. Donc, on se met d'accord sur chaque point de programme. Donc, ça nous conduit à un gouvernement en octobre. Et à partir de là, la négociation commence. Elle commence d'abord par qu'est-ce qu'on fait pour la zone euro. Et là, les Allemands vont dire, mais on vous fait d'autant plus confiance que vous avez enclenché, enfin, un processus de réforme en France. Celle dont les Français veulent pas, mais que tous les pays développés ont fait. Alors, si Emmanuel Macron a réussi, là, il a un fil extraordinaire à tirer.
Oui, ça pourrait aller très vite après.
Et ça peut aller au-delà même de d'une nouvelle vision de la zone euro. Très vite, j'en sais rien, mais en tout cas, ça change une situation qui était complètement bloquée. Il me semble que pour le moment, même s'il va faire face aux urgences et il rencontre tous les dirigeants, c'est normal. Il me semble que c'est ça
l'axe,
le fil conducteur.
Merci beaucoup Hubert Védrine. Sauver l'Europe chez Liana Levy, Le Monde au défi, La France au défi de volume chez Fayard, ancien ministre des Affaires étrangères, je le rappelle bien évidemment. Merci encore d'être venu au micro d'Inter. La revue de presse internationale, notre rendez-vous du jeudi à suivre.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Ouaman. Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Moscou, Claude Bruyot.
Jérusalem, Étienne Monod.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous. La revue de presse des correspondants d'Inter, elle passe cette semaine par Moscou et Pékin. Dominique André, on commence par cette étudiante chinoise, Dominique, qui étudie aux États-Unis. Sa vidéo est devenue virale.
C'est l'information qui a été la plus commentée sur les réseaux sociaux, qui a été critiquée et aussi censurée. Alors Yan Shuping est chinoise, elle étudie depuis 5 ans aux États-Unis et elle a prononcé un discours à l'université du Maryland lors de la cérémonie de remise des diplômes. La vidéo qui circulait sur l'internet chinois a été censurée et vous allez comprendre rapidement pourquoi.
Il y a 5 ans, quand je suis sortie de l'avion en provenance de Chine, j'ai enlevé mon masque. L'air était si doux et si frais. Je me suis sentie libre. À l'université de Maryland, j'ai rapidement perçu une autre sorte d'air frais, l'air frais de la liberté d'expression.
Free speech. Le parallèle que l'étudiante semble faire entre l'air et l'atmosphère politique en Chine a été vivement critiqué par une majorité d'internautes nationalistes avec ce type de commentaire. Ok, la qualité de l'air en Chine n'est pas bonne, mais pourquoi flatter à ce point les États-Unis, lui demande un internaute. C'est un toutou qui s'agenouille et qui lèche la main de l'Occident. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est le débat que cette vidéo soulève encore quelques jours après sa mise en ligne. Internautes chinois prennent la défense de Yan Shuping avec ces mots. Elle dit des choses vraies. La liberté d'expression en Chine est moins bien qu'aux États-Unis. Tu n'es pas obligé de t'excuser. Or, la jeune étudiante a depuis présenté ses excuses sur le réseau social chinois Weibo en disant « J'aime profondément mon pays et je défendrai la culture chinoise ».
Allez, on passe à la décision de Taïwan d'autoriser le mariage gay. Décision diversement appréciée.
La présidente Tsai Ing-wen, qui a été élue démocratiquement l'an dernier, s'est engagée personnellement dans ce combat. La nouvelle s'est répandue immédiatement sur tous les réseaux sociaux dans toute l'Asie. « Je saute de joie comme un oiseau », écrit un jeune Chinois de Chine continentale. « Ça ne me regarde pas, mais j'ai les larmes aux yeux », dit un anonyme sur le Weibo, le Twitter chinois. « Malgré tous les préjugés sur les homosexuels, c'est l'amour qui vient de gagner ». Ces commentaires, qui proviennent donc de Chine continentale, sont intéressants car ils montrent une évolution des mentalités en République populaire de Chine, où l'homosexualité a été rayée de la liste des maladies mentales qu'en avril 2001.
Et on termine avec cette première en 28 ans, l'agence de notation financière Moody's abaisse la note de la Chine.
L'agence de presse officielle Chine Nouvelle a immédiatement repris les déclarations du ministère des Finances, qui estime que c'est exagéré. La méthode de Moody's n'est pas bonne, les difficultés de l'économie chinoise sont surestimées et la capacité du gouvernement chinois est sous-estimée. Gros débat aussi sur l'internet chinois entre ceux qui soutiennent la position gouvernementale, critiquent donc Moody's, et puis une partie quand même des internautes qui alertent sur les risques de l'économie chinoise et notamment celui d'une bulle immobilière dont on parle depuis plusieurs années.
Dominique André à Pékin et direction donc maintenant Moscou. Claude Bruyot, bonsoir.
Bonsoir.
Un peu plus d'un mois après l'attentat de Saint-Pétersbourg, Claude, la presse russe accorde logiquement une très grande place à la tragédie de Manchester. Dernier développement en date avec les nouvelles propositions de Poutine pour construire un front uni, Claude, contre le terrorisme international.
Oui, l'occasion a été saisie dans les heures qui ont suivi l'attentat. Le quotidien indépendant Commerçante reprend les propos de Vladimir Poutine qui s'est déclaré prêt dès mardi donc à développer, je cite, à la fois sur des bases bilatérale, mais aussi dans le cadre de l'effort international, à accentuer la coopération donc internationale pour lutter contre le terrorisme. Pour autant, Commerçante relève objectivement que ces efforts partiraient de très loin, de très très loin même, tant l'interaction entre les services spéciaux de la Russie et ceux des principales puissances occidentales est actuellement réduite à son strict minimum. Ce constat est bien sûr à mettre en parallèle avec la menace terroriste très forte qui pèse sur la Russie, un mois et demi donc après les 15 morts du métro de Saint-Pétersbourg, et alors que ce matin encore à Moscou, le FSB, l'ex-KGB, a arrêté 4 terroristes présumés qui s'apprêtaient, selon les autorités russes, à commettre un attentat dans les transports en commun moscovites.
La lutte contre le terrorisme, ce sera évidemment un des principaux sujets abordés lundi à Versailles par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, Claude.
Oui, et les sujets sont nombreux, effectivement. Les questions des sanctions occidentales et le conflit dans l'est de l'Ukraine figureront bien sûr à l'ordre du jour, tout comme d'ailleurs les divergences fortes qui existent sur la guerre en Syrie, l'avenir de Bachar al-Assad. Mais le quotidien proche du pouvoir, Moskovski comme Smolensk, lui ne peut s'empêcher de remarquer que la veille de cette rencontre, donc le 28 mai, jour de l'arrivée de Vladimir Poutine à Paris, correspondra à quelques heures près avec la fin de la tournée européenne de Donald Trump, et le quotidien moscovite d'ajouter que, vu le degré d'imprévisibilité du président américain, celui-ci pourrait peut-être rester 24 heures de plus, histoire de rencontrer son homologue russe.
Allez, dans un tout autre genre, Claude, les Russes se pressent depuis quelques jours pour se recueillir devant les reliques de Saint-Nicolas. Elles sont exposées depuis le début de la semaine pour la première fois à Moscou.
Oui, ce sont des files d'attente impressionnantes devant la cathédrale du Christ Sauveur, toute proche du Kremlin, à l'endroit même donc où les reliques de Saint-Nicolas sont présentées au public pour une exposition espérée depuis des décennies par les fidèles orthodoxes. Saint-Nicolas, bien que n'étant pas russe et n'ayant jamais vécu en Russie, est considéré ici comme l'un des principaux saints de la religion orthodoxe. Le quotidien Vedomosti souligne d'ailleurs que ces reliques n'avaient jamais quitté l'Italie et que leur sortie a fait suite à la rencontre en 2016 à Cuba entre le pape François, le patriarche Kirill, et Vedomosti de conclure que cette exposition vient en quelque sorte illustrer la réconciliation entre les églises catholiques et orthodoxes. D'ailleurs, après Moscou, eh bien, les reliques de Saint-Nicolas auront ensuite les honneurs de Saint-Pétersbourg, qu'on appelle aussi la Venise du Nord.
Claude Bruyot en direct de Moscou. Merci.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Nous partons au Niger, dans la région d'Agadez.
Capitale de l'Aïr, Nicolas, cette immense région du nord du pays, très convoitée il y a une vingtaine d'années par les touristes. Aujourd'hui, la menace terroriste les a fait fuir et c'est grâce à l'argent de trafic en tout genre, drogue, migrants, que la ville d'Agadez a relancé son économie grâce aussi à l'orpaillage. François-Xavier Frelan, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Vous êtes de retour de l'Aïr. On parle là-bas d'une véritable ruée vers l'or. Près de 10 000 chercheurs d'or sont installés dans la région et vous en avez croisé quelques-uns.
Oui, celui qu'on va entendre est un Touareg. Il s'appelle Eladj Algabi. C'est devenu un véritable petit homme d'affaires. Je l'ai retrouvé dans sa belle maison, toute neuve, à Agadez, juste à côté de sa nouvelle aussi station-service. Alors, il faut savoir que ce jeune père de 4 enfants, très pieux, n'est jamais allé à l'école. Il était simple agriculteur. Il cultivait des oignons, du blé dans les monts Bagzan, juste à côté. Et depuis 2 ans, il est devenu orpailleur, comme des milliers d'autres. Il possède dans le site de Tchibarakaten, à la frontière algérienne, 2 puits artisanaux à 100 mètres de profondeur chacun, avec une dizaine d'ouvriers sous ses ordres. En 2 ans, il a déjà récupéré 2 kilos d'or, soit 40 millions de francs CFA, c'est énorme. Il a acheté une station-service, donc avec, mais ce métier est évidemment très risqué dans cette zone de trafiquants en tout genre et de terroristes. On l'écoute.
La route est très dangereuse par ici, il y a souvent des attaques. Parfois c'est l'armée qui nous escorte, parfois ce sont des services privés, mais il faut les payer. Moi j'ai acheté 2 gros camions, 2 4x4 pour faire le transport, mais bien sûr j'ai peur. Alors plutôt que de ramener l'or en poudre, on ramène les pierres, la roche et on traite tout ça à Agadez. Ça se vole bien moins facilement qu'un camion bourré d'or, vous savez.
Alors cet or si précieux, François-Xavier, est ensuite acheminé vers une petite base de traitement à une trentaine de kilomètres d'Agadez, base que vous avez pu visiter.
Oui, ça se trouve dans une immense plaine semi-désertique, poussiéreuse, il n'y a strictement rien, sauf les camions, certains de migrants qui passent ici et là sur les pistes. Des routes sont en train d'être bitumées actuellement pour désenclaver le coin, et puis au bout, vous tombez donc sur cet immense village fait de briques et de brocs, où travaillent dans la plus grande clandestinité des ouvriers qui cassent, broient les pierres qui arrivent donc par camion de cette mine du Nord, vous l'entendez d'ailleurs derrière nous, pour faire une poussière. Et c'est ensuite que ces hommes dissocient l'or de cette poudre de terre, évidemment sans masque, avec du mercure. Il y a environ 500 personnes qui travaillent là. Des milices rôdent autour pour protéger cette base semi-secrète. Alors j'ai parlé avec un Nigérian, Abderrahman Seydou, 25 ans, de l'ethnie Haoussa, qui est là depuis 2 mois. Et vous allez le voir, il est très content. On l'écoute.
J'étais chez moi au Nigeria quand j'ai appris qu'on avait découvert des mines d'or au nord d'Agadez. Et je suis venu pour tenter ma chance. Je gagne entre 15 et 30 euros par jour. C'est ce qu'un Nigérien gagne en moyenne ici en un mois. Et je suis très heureux. J'ai aussi gardé quelques grammes d'or pour ma famille. Maintenant, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Construire une maison et enfin me marier.
Alors il faut savoir, Olivier, que cet orpaillage est de plus en plus considéré comme une activité alternative pour certains migrants bloqués à Agadez. Les autorités nigériennes, sous la pression de l'Europe, freinent de manière plus efficace le flux de migrants vers la Libye. Et depuis 2014, notamment à la mine du Jado, à 700 km au nord d'Agadez, des migrants y travaillaient pour se renflouer les poches, se faire oublier aussi des contrôles policiers avant de reprendre la route vers l'Europe. Et l'État nigérien a volontairement fermé ce site tout récemment, et depuis, certains migrants se sont réinstallés ailleurs et parfois ont renoncé au voyage vers l'Europe. On écoute Ibrahim Manzo, journaliste et dirigeant local du mouvement de la société civile Alternative Espace Citoyen.
Bon, maintenant que le site est fermé du Jado depuis février 2017, et il y a des petits sites orifères qui sont à la périphérie d'Agadez, ils partent y travailler pour gagner un peu d'argent. On rencontre notamment sur ces sites qui sont à la périphérie d'Agadez des migrants qui ont eu les rêves brisés, qui ont tenté d'aller mais qui ont échoué et qui ont tout perdu en cours de route. Donc là, ils se disent que de retourner à la maison, chercher encore de l'argent pour revenir par là, c'est vraiment un trajet perdu. On peut faire de l'argent en traitant de l'or.
Et c'est donc grâce à cet or, François-Xavier, que la ville d'Agadez s'est enrichie. On parle d'une véritable renaissance pour la capitale de l'Aïr.
Et oui, contrairement à sa mauvaise réputation, due en partie au trafic en tout genre, Agadez est en plein développement. Sa population a doublé en 5 ans, autour de 150 000 personnes aujourd'hui. C'est une ville relativement bien sécurisée qui s'est transformée. Les grands axes ont été goudronnés, on y a construit un stade, un hôpital, une université, et surtout les villas, plus ou moins cossues grâce à l'argent de l'orpaillage, y poussent comme des champignons et pas toujours du meilleur goût. Alors, reste que les autorités réfléchissent à professionnaliser tout ça, à taxer aussi ces orpailleurs. De gros groupes internationaux sont sur le coup. Bref, l'âge d'or pour ces orpailleurs clandestins est peut-être déjà révolu.
La ruée vers l'or d'Agadez au Niger, reportage signé François-Xavier Freland. Merci à vous, François-Xavier.
18h45, on file maintenant en Israël, Olivier, pour parler cinéma, plus exactement des cinéastes préoccupés par la politique de leur ministre de la Culture.
Miri Regev, vous savez, c'est elle qui arborait la semaine dernière une robe à la gloire des colons sur les marches du Festival de Cannes. Miri Regev est très connue en Israël pour ses sorties violentes contre le monde de l'art, un univers de gauchistes, selon elle, fait d'ingrats coincés et de matu vu. Elle refuse de subventionner les artistes qui critiquent l'État d'Israël ou sa politique, et envisage sérieusement la censure comme recours légitime, un point de vue, disons, plutôt radical. Bonsoir Marie Semelin.
Bonsoir Olivier.
En ligne avec nous depuis Tel Aviv. Marie, vous avez rencontré l'une des figures montantes du cinéma israélien, Nadav Lapid, très inquiet des dernières mesures prises par le ministère, qui a décidé de passer au peigne fin tous les scénarios subventionnés pour distinguer les bons des mauvais élèves. Le monde du cinéma israélien parle d'une authentique chasse aux sorcières.
Oui, la crainte, c'est que les subventions publiques soient conditionnées aux politiques. Une de ces grandes fondations vient aussi d'ajouter une clause à ces contrats. Les réalisateurs doivent s'engager, entre autres, à respecter les symboles de l'État, un terme flou pour se protéger légalement si, par exemple, un film venait à déplaire et qu'on leur demandait de rembourser cet argent public. L'atmosphère est à la menace, parfois en l'air, parfois mise à exécution. Et pour Nadav Lapid, que j'ai pu rencontrer à Place Rabine, lieu très symbolique où se tiennent habituellement les rassemblements contre la politique du gouvernement, les changements initiés sont profonds.
C'est effrayant, mais c'est fascinant parce qu'on voit comment, avec toutes sortes de démarches qui peuvent avoir l'air d'être quasi bureaucratiques, on peut toujours avoir l'impression qu'il ne faut pas exagérer, on crie au loup, etc. Mais petit à petit, une société perd complètement des valeurs fondamentales qui, il faut dire ça, étaient déjà en Israël restreint surtout aux Juifs. Enfin, tout cela a un effet, ça intimide et ça fait peur. Je ne sais pas si j'aurais donné aujourd'hui un tel entretien à une chaîne de télé israélienne. Justement, une journaliste israélienne m'en a parlé. Et c'est elle qui, d'une manière très très naturelle, elle m'a dit évidemment que votre nom ne paraîtra pas et vous serez en silhouette sur l'écran. Je pense que ça, déjà, ça réfléchit l'état des choses actuelles.
Des mots assez sévères, un discours assez tranché. Ce constat peut être surprenant parce que le cinéma israélien a l'air de se porter plutôt bien.
L'industrie se porte bien, mais les films qui marchent à l'étranger sont rarement les mêmes que ceux populaires en Israël. Hors frontières, on peut notamment voir souvent le conflit israélo-palestinien à l'image, alors qu'il n'est traité que dans 10% des films ici. C'est le journal Haaretz qui a fait ce calcul. Il faut aussi distinguer les films faits en Israël et les films réalisés par des Israéliens, comme Amos Gitai, l'un des plus connus d'entre eux, et qui a présenté cette année à Cannes, à l'ouest du Jourdain, un documentaire produit uniquement en France. Et pour Nadav Lapid, ce qu'on trouve dans le cinéma, dans l'État hébreu, c'est surtout beaucoup de complaisance.
Le public israélien suit le gouvernement israélien à fond, ou peut-être c'est le gouvernement israélien qui suit le public israélien. Je pense que le public israélien cherche des films qui le flattent et il les trouve. Aujourd'hui, un film politique, ce qu'on peut appeler film de gauche, et c'est pas comme si le cinéma israélien était un tel cinéma de gauche, pas du tout, ou était un tel cinéma de gauche, mais un film de gauche peut plus se faire en Israël, au moins d'une manière institutionnelle. C'est fini. Et pour que ce soit fini, on n'est pas obligé de dégarer des chars au bureau des fondations de films ou de jeter aux prisons des réalisateurs. C'est assez facile de faire taire des cinéastes.
Et pourtant, le regard, Marie, de ce réalisateur sur la société israélienne reste sans concession.
Oui, un travail profondément politique, traversé par une interrogation. Qu'est-ce qu'être israélien? Comme dans son nouveau film, largement autobiographique, où un jeune homme tente de renier cette identité pour s'installer en France.
Mon prochain film qui sera tourné à Paris et 90% en français sera, je crois, le film le plus israélien que j'ai fait de ma vie. Mes idées en tant que personne privée ou en tant que personne politique sont assez claires. Je pense que mes films sont beaucoup plus ambigus. J'espère qu'à la fin, ils sont radicaux et critiques par rapport à cette société-là. Mais je pense qu'ils sont aussi imbibés du lien fort et des émotions que je ressens par rapport à cet endroit. Après, je pense que la question, c'est qu'est-ce que ces films disent et est-ce qu'on insiste de faire entendre votre voix tant que quelqu'un veut l'écouter.
Et une voix entendue par le franco-tunisien Saïd Ben Saïd, producteur notamment de Verhoeven, de Palma, Polanski et donc désormais de Nadav Lapid, ce jeune réalisateur israélien dans les pas d'Amos Gitai, le célèbre Amos Gitai, dont le dernier film, je crois, Nicolas, a été présenté aujourd'hui à Cannes.
Et on va en parler dans quelques secondes avec Eva Bétan. Merci Olivier Poujade.
Moteur.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Amos Gitai, donc, à Cannes pour présenter son nouveau film, un documentaire intitulé, Marie Semelin nous le disait, à l'ouest du Jourdain. Et comme toujours, Eva Bétan, Gitai en profite pour donner des nouvelles de son pays.
Amos Gitai, vous le savez, c'est un des fils les plus célèbres d'Israël et c'est un enfant critique. Mais c'est pas une critique négative, c'est une critique parce qu'il estime que c'est nécessaire pour avancer. En quelques 40 ans de cinéma, il a fait une œuvre très cohérente, à la fois fiction et documentaire. Ici, c'est un documentaire. Un documentaire qu'il présente lui-même, à l'intérieur du film, comme un journal de bord. Il va croiser des images d'archives, de ses propres archives à différentes périodes et des images d'aujourd'hui. Il est allé filmer dans les territoires occupés. On va voir comment ces images en quelque sorte se répondre. On va entendre un discours très dur de certains ministres actuels sur la colonisation et on va entendre ce que disait Yitzhak Rabin il y a 20 ans. Parce que un des plus beaux documents du film, c'est que il commence par une interview d'Yitzhak Rabin qui date de 1994. C'est à la fois émouvant parce qu'il a été assassiné et en même temps il y a ce qu'il dit. Écoutez Amos Gitaï.
Malheureusement, dans l'état d'aujourd'hui, la seule alternative au pouvoir actuel, c'est un homme mort. Rabin.
Yitzhak Rabin.
Sans faire de culte de personnalité et sans fétichiser Rabin, mais il avait une certaine simplicité. C'est une sorte de caractéristique que j'aime chez certains Israéliens. Une façon de parler d'une façon directe, pas chercher le sondage des matins pour penser qu'est-ce qu'il va dire dans l'après-midi. Et cette sorte de sobriété est très émouvant. C'est-à-dire Rabin, dans cette interview, qui est apparemment un des dernières interviews longues qu'il a fait avant d'être assassiné, il nous parle du Moyen-Orient, de son vision. Et il n'y a pas aussi d'angélisme de cette région. C'est complètement sobre, les choses qu'il dit.
Alors, il y a un discours qu'on entend dans ce film et qui est récurrent, qui est qu'il faut faire attention parce qu'un jour, un point de non-retour sera atteint. Un jour, il y aura tellement de colons qu'il ne sera plus possible de faire marche arrière. C'est un film assez modeste, je dirais, d'Amos Gitaï. Il va voir certaines initiatives où Israéliens et Palestiniens se sont parlé. Modeste dans le sens où il ne dit pas « voilà, c'est la solution pour tout », mais il dit « ça existe ».
Alors, franchement, j'étais extrêmement touché par ce groupe de gens très courageux, des Israéliens et Palestiniens, des associations comme Breaking the Silence, qui réunit des femmes palestiniennes et israéliennes, qui sont perdues leurs enfants, qui arrivent malgré cette tragédie, ce chagrin de dialoguer. Des groupes de rabbins qui luttent pour les human rights, qui essayent de protéger une école bédouin menacée de démolition par les colons, qui sont pas loin de cette école. C'est-à-dire tous ces gens qui essayaient de garder un visage humain nécessaire d'Israël.
Effectivement, vous montrez des initiatives qui sont fortes symboliquement, mais elles ne sont pas importantes en nombre.
Non, ils sont minoritaires. Mais moi, je trouve que nous, les Israéliens, ou même on peut dire plus large, les Juifs, il faut qu'on respecte les idées minoritaires. Et aussi, on respecte les idées tout court. Alors, il faut parler des idées. Il faut, le cinéma, c'est une forme très forte d'évoquer cette sorte d'idée. Et aussi de sortir d'une sorte d'angélisme. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'angélisme. C'est-à-dire, pour certains, le conflit du Moyen-Orient est divisé entre des gens angéliques et les salopards. Malheureusement, les deux côtés, ils sont des gens angéliques et des salopards dans les deux côtés. C'est-à-dire, il faut pas, l'angélisme, c'est une sorte de poison. Si on dit que tous les Israéliens sont parfaits ou tous les Palestiniens sont parfaits, on ne va jamais avancer. Ils sont contradictoires. Et il faut chercher les groupes, les gens qui nous laissent avancer vers un autre horizon du Moyen-Orient.
Un festival de cinéma, ça sert à ça. C'est peut-être une banalité de le dire, mais tant pis, on le répète, à nous donner des nouvelles du monde et des nouvelles complexes, des nouvelles qui ne sont pas binaires.
Eva Bétan, à Cannes. À propos donc de ce film d'Amos Gitaï, documentaire à l'ouest du Jourdain. 18h54, l'édito.
France Inter, le 18-20.
Signé,
un jour dans le
oui, voilà, signé Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Depuis hier, Anthony, des militaires patrouillent dans les rues de la capitale brésilienne, Brasilia, pour protéger les ministères et la présidence.
Et quand on connaît l'Amérique latine, on sait combien l'image de soldats patrouillant dans les rues est forte et surtout chargée de très mauvais souvenirs, comme le reste du cône sud, comme on dit. Hein, le Brésil a connu une dictature militaire épouvantable de 1964 à 1985, une des plus dures du continent. Donc lorsque le président brésilien Michel Temer a autorisé hier 1500 soldats à sortir de leurs casernes pour protéger des manifestants les bâtiments officiels. Il savait parfaitement qu'il maniait un symbole sensible et donc il donnait un avertissement sans frais. C'est dire l'état de déliquescence, voire de panique dans lequel se trouve la classe politique brésilienne en général et ce président en particulier. Est-ce que vous voulez une petite idée ?
Avec plaisir.
Eh bien, le scandale de corruption du lavage à tout, c'est 2 milliards d'euros, je dis bien 2 milliards d'euros de pots de vin. En 3 années d'enquête, il a touché ce scandale une vingtaine de partis politiques. Il a occasionné plus de 200 inculpations dans le personnel politique. Il a jeté devant les tribunaux deux anciens présidents. Il a défait 90 parlementaires et le tiers des ministres de l'actuel gouvernement.
On a beaucoup dit, Anthony, par ailleurs, que ce scandale était dirigé d'abord et avant tout contre Lula et les siens.
Ça a été effectivement le lieu commun des accusations de gauche avec ce scandale. C'est Lula et puis Dilma qu'on voulait assassiner politiquement et le parti des travailleurs qu'on cherchait à éliminer. Sauf qu'il y a aujourd'hui presque autant de figures de droite et du centre que de gauche qui sont affectées ou condamnées par les tribunaux, dont des vedettes, comme par exemple l'ancien président évangélique de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, qui dort en prison pour 15 ans. Il y a l'ex-candidat à la présidence Aichiu Neves, centre-gauche, qui a démissionné de son siège de sénateur. Et puis enfin le président Temer lui-même, le tombeur de Dilma Rousseff, victime d'enregistrements pirates qui semble le compromettre gravement. Et si l'on ajoute à cela que la Cour suprême du pays pourrait dans les semaines à venir annuler purement et simplement l'élection présidentielle de 2014, on obtient un portrait de groupe qui, en comparaison, fait de la présidence Trump un havre de paix et de tranquillité.
Et y a-t-il une solution à cette crise qui est interminable ?
Eh bien, avec un président qui refuse pathétiquement de démissionner en disant, je cite, je ne démissionnerai pas. Je répète, je ne démissionnerai pas. On se croirait à Radio Londres, vous savez. Je sais ce que j'ai fait et des tribunaux qui travaillent malgré tout lentement, comme toutes les justices du monde, on a du mal à voir le bout du cauchemar. En tout cas, je peux vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il ne faut surtout pas en appeler à l'armée, surtout en Amérique latine, pour faire un travail qui revient à la police. Partout où l'on confie aux militaires un rôle social éminent, ils finissent par y prendre goût. C'est très simple à comprendre. En Amérique latine, depuis quasiment le début du siècle dernier, les armées ne servent à rien. Le continent n'a jamais participé à une guerre mondiale et les conflits entre États ne se résolvent plus militairement depuis très longtemps. Or, c'est toujours à la demande d'un gouvernement civil en délicatesse que l'armée, les armées sud-américaines, et surtout les hauts gradés, la cúpula comme on dit là-bas, se sont impliqués dans les affaires publiques jusqu'à finalement y trouver un certain intérêt et prendre le pouvoir avec toujours les mêmes arguments. La lutte contre la corruption politique ou économique et la sauvegarde des intérêts suprêmes de la nation, vous connaissez le refrain. Et c'est pour cette raison que les 1500 soldats qui patrouillent depuis aujourd'hui dans les rues de Brasilia sont un terrible signal donné à l'ensemble du continent.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 consacré ce soir aux enfants, aux parents, au dialogue entre eux, au dialogue au sein de la famille. Comment s'écouter les uns les autres? Intervenez, chers parents, dites-nous si le dialogue est fluide chez vous, plus transparent qu'à l'époque de votre propre enfance, quand les pudeurs et les interdits pouvaient être envahissants. Notre invité sera Aldo Nahouri, le pédiatre qui publie chez Odile Jacob un très beau texte intitulé « Entendre l'enfant, entendre les enfants, mais aussi cet enfant » dit Aldo Nahouri, qui est en nous tous et qui continue soit à nous habiter, soit à geindre. On verra ça tout à l'heure avec lui. 01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Ces livres qui nous font du bien, c'est le thème à 10h demain. De grand bien vous fasse, précisément, avec Ali Rebéi. Le journal à suivre.